Temps, contre-temps. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Dans la série Mythologie sur le mythe de Thésée et le Minotaure, Canal Académie vous propose la lecture d'un extrait du Thésée d'André Gide. On retrouve Clément Moutier qui dialogue avec Isabelle Morin et une jeune élève, Allegra, de l'école d'art Coronin à Paris.
En face de moi, sur un parterre fleuri de renoncules, d'adonides, de tulipes, de jonquilles et d'œillets, en une pose nonchalante, je vis le Minotaure couché. Par chance, il dormait. J'aurais dû me hâter et profiter de son sommeil, mais ceci m'arrêtait et retenait mon bras. Le monstre était beau. Comme il advient pour les centaures, une harmonie certaine conjuguait en lui l'homme et la bête. De plus, il était jeune, et sa jeunesse ajoutait je ne sais quelle charmante grâce à sa beauté. Arme contre moi, plus forte que la force, et devant lesquelles je devais faire appel à tout ce dont je pouvais disposer d'énergie. Car on ne lutte jamais mieux qu'avec le renfort de la haine, et je ne pouvais le haïr. Je restais même à le contempler quelque temps. Mais il ouvrit un œil. Je vis alors qu'il était stupide et compris que je devais y aller. Ce que je fis alors, ce qui se passa, je ne puis le rappeler exactement. Si étroitement que m'embaillonna le tampon, je ne laissais pas d'avoir l'esprit engourdi par les vapeurs de la première salle. Elle affectait ma mémoire, et si pourtant je triomphais du Minotaure, je ne gardais de ma victoire sur lui qu'un souvenir confus, mais somme toute plutôt voluptueux. Suffit puisque je me défends d'inventer. Je me souviens aussi, comme d'un rêve, du charme de ce jardin si capiteux que je pensais ne pouvoir m'en distraire. Et ce n'est qu'à regret, quitte du Minotaure, que je regagnai rembobinant le fil, la première salle, où rejoindre mes compagnons.
Merci Isabelle Morin pour cette lecture d'un passage du Thésée d'André Gide, prix Nobel de littérature en 1947. Eh bien moi, il y a une phrase qui m'interpelle dans votre lecture Isabelle, c'est « Le monstre était beau ». Alors Allegra, comment ça se fait que ce Minotaure est beau? Normalement, on s'en fait une image négative, on a presque peur du Minotaure. Là, on dirait que Thésée ben, le trouve beau et presque amoureux de lui. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'une part, c'est vrai que parfois la monstruosité ou l'extrême laideur deviennent belles. Des beautés qui sont fascinantes ou des beautés étranges. Il y a un point de basculement, de changement de perception. Mais dans le Thésée de Gide, il y a aussi un aller-retour entre la fiction et le mythe. Quand Thésée découvre le Minotaure, il dort, ce qui change aussi la perception. Ça, c'est le mythe qui alimente la fiction. Et André Gide ajoute qu'il est beau. Ça, c'est sa vision personnelle. Dans le mythe, il n'est pas précisé si le Minotaure est beau.
Non, je pense qu'au contraire, le Minotaure est présenté comme une bête qui fait peur. Et vous l'avez dit, le Minotaure dort et finalement, Thésée n'a pas forcément envie de le déranger, il le contemple. Quel sentiment semble éprouver Thésée en voyant le Minotaure? Il semble presque amoureux.
Il peut sembler amoureux ou avoir un instant de faiblesse. En tout cas, il dit qu'il n'a pas l'énergie pour le combattre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de combattre quelqu'un aussi dans son sommeil. Ça incite pas au combat.
Et puis Thésée, qui aime le combat, aime le sang, ne veut pas paraître peut-être pour un lâche, il attend que son adversaire soit éveillé.
Ça aussi. Par contre, il est dit que dès que le Minotaure s'éveille, Thésée voit la stupidité du monstre dans son regard et du coup trouve l'énergie pour le combattre. En fait, il semblerait que pour Gide, c'est combattre la stupidité, pas tant que combattre le Minotaure. Quand il ouvre l'œil, il y voit la stupidité du monstre.
Et alors, ce combat, on en parle, mais puis finalement, aucune description. Gide fait l'impasse sur le moment où on s'attend à voir Thésée révéler toute sa force. Là, finalement, il n'y a pas de combat. Vous l'avez dit, Isabelle Morin. Thésée dit, je me souviens presque plus, j'étais engourdi par les vapeurs de la première salle. Donc on sait que dans les salles, il y a des parfums qui engourdissent l'esprit.
Oui, c'est vrai.
Comment ça se fait que Thésée, ou surtout Gide, ne nous parle pas de ce combat?
Peut-être que l'essentiel est ailleurs que dans le combat. Gide a longtemps porté ce Thésée en lui avant de l'écrire. Et comme toute œuvre d'art, ce récit repose sur des partis pris et des angles de vue. Le premier parti pris que Gide notait dans son journal en 1931 était, je cite, « Cette vie de Thésée à laquelle je pensais depuis longtemps, pourquoi pas sous la forme d'un journal ?» Donc il semblerait qu'en 1931, il ait décidé de la forme et il a fini de l'écrire avant de le remanier. Toujours dans son journal, il est dit le 21 mai 1944. Aujourd'hui, 21 mai, j'ai achevé Thésée. Il me reste de grands morceaux à réécrire, mais à présent, toute la toile est couverte. Donc, il parle comme un peintre.
Donc, il a mis plus de 20 ans à élaborer ce Thésée, André Gide. Est-ce que finalement, vous qui avez la fibre artistique, est-ce que dans l'art comme ça, on peut mettre autant de temps à se lancer dans une œuvre et puis 20 ans après, se dire, hop, un dernier coup de pinceau, et voilà, je l'ai fini?
Il y a des œuvres, effectivement, qui mûrissent longtemps. On tourne autour, on ne les aborde pas, on a envie. Et puis un jour, on s'y met. On les laisse encore reposer, puisque finalement, le Thésée de Gide a été édité en janvier 1946. Et la première édition a été reprise. Il est dit que le chapitre 9 initial a été supprimé. Et le chapitre 9 aujourd'hui, en fait, c'est le combat avec Thésée. Donc, il semble que ce soit un chapitre aussi qui crée quelques difficultés d'écriture. Et en tout cas, pour revenir à la question, il semble bien que Thésée soit plus focalisé sur sortir du labyrinthe plutôt que combattre le Minotaure.
Peut-être aussi qu'André Gide ne voulait pas faire un étalage de violence, de sang dans son livre, et qu'il a préféré nous livrer une scène qu'on pourrait presque qualifier d'érotique, avec cette fibre un peu amoureuse qui flotte dans l'air comme les vapeurs justement de l'amour.
Oui, c'est vrai. Il y a une ambiguïté, ou au moins une interprétation possible.
Voyez-vous, quand vous lisez ce passage, ou tout au moins l'œuvre entière, ce Thésée d'André Gide, est-ce que vous avez l'impression que vous redécouvrez Thésée, ou est-ce qu'il apparaît comme il existe déjà dans le mythe?
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que André Gide ne s'écarte guère du mythe. Il ne réinvente rien. Par contre, il adopte déjà le point de vue d'une autobiographie écrite au soir de la vie de Thésée pour son fils. Donc ce récit est rythmé, à la fois plein d'humour et écrit à la première personne. C'est une expérience de vie, un bilan aussi. Et plus que le combat avec le Minotaure et tous les autres combats, je pense que Gide retient surtout dans la vie de Thésée la fondation d'Athènes et la démocratie. Ce que l'on peut retrouver dans les dernières lignes du texte.
Eh bien, Allegra, je vous propose de nous en faire la lecture.
C'est consentant que j'approche la mort solitaire. J'ai goûté les biens de la terre. Il m'est doux de penser qu'après moi, grâce à moi, les hommes se reconnaîtront plus heureux, meilleurs et plus libres. Le bien de l'humanité future, j'ai fait mon œuvre, j'ai vécu.
Bien, merci beaucoup Allegra pour cette lecture qui nous a encore ouvert d'autres pistes sur ce mythe de Thésée qui est définitivement inépuisable. Merci à vous Isabelle Morin pour cette lecture.
Merci.
Merci, au revoir.
Et au revoir.
Au revoir.
Sur le mythe de Thésée et le Minotaure, plusieurs émissions vous sont proposées dans notre série Mythologie sur Canal Académie.